Patriarca, patrie, patriarca, patrie.
Le micro en main, que mon message parvienne.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butch strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon au
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Oui, je suis très poilue.
Donc oui, moi je m'épile.
Plus que la moyenne des filles et même souvent plus que plein de garçons.
Ça, parce que j'aime bien, je trouve que quand j'ai mes règles et que j'entretiens le gazon d'entre les gens, c'est plus pratique, c'est plus hygiénique et je me sens bien comme ça.
Et tu t'épiles nulle part, ni les aisselles, ni les jambes, ni la barbe, ni le
sexe. Non, je ne m'épile pas dans ma vie.
Je m'épile nulle part, non.
Avant je m'épilais parce que avant j'étais jeune.
Je suis grave poilue.
Et j'étais au lycée et au collège et du coup je m'épilais.
Je suis poilue sur les orteils des pieds, sur le haut du pied, sur les jambes, de la cheville, haut des cuisses.
Est-ce que tout le monde le faisait, oui.
Un peu sur le visage, mes sourcils, mais un peu de moustache, des poils au menton, puis des cheveux.
Waouh.
C'est fou, hein.
Tout ça.
Tout ça. Et en plus ils sont noirs.
Et tu les gardes.
Ouais, je les garde.
Et moi, si je m'épile un peu les poils entre les deux sourcils, parce que, je sais pas, sinon je crois que j'ai peur d'avoir un mono-sourcil. Et oui, je tonds ma chatte.
Attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Mais tu t'es pas épilé là, c'est la forêt vierge.
Je suis désolé, j'ai eu une semaine chargée. Entre le boulot, le foot pour Mathilde, emmener Romain chez le pédiatre et faire les courses, moi j'ai pas trouvé le temps.
Ah ouais, non mais merde. Ah non, mais je trouve que tu te négliges. Enfin, c'est quand même pas compliqué, tu prends 5 minutes, tu prends un rendez-vous et tu restes net. Ah mais je trouve que tu veux plus me séduire. Bah voilà, tu m'as coupé l'envie.
Ça vous choque? Ma mère s'est fait des cheveux blancs la première fois qu'elle m'a vu avec des poils.
Elle m'a dit reprends du poil de la bête. Je me fais des cheveux blancs depuis que t'as des poils.
Vous tombez pile poil sur Dégenré, une émission sur les poils qui ne rase pas les murs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc bienvenue sur Dégenré. Ce soir, une émission aux petits non, aux petits oignons, c'est pas lié aux poils en fait. Une émission pour parler des poils. Et parler des poils, c'est pas juste parler du rapport au corps, c'est pas juste parler d'épilation, de rasage à la cire, au rasoir, le maillot, juste le ticket de métro, au brésilien, ou Dupont et Dupont. Non, même si c'est aussi les « à poil » criés à la bassiste, copine bassiste sur scène, à Dégenré, on aime bien aller, ou du moins tenter d'aller, à la racine des questions. Alors, les femmes sont moins poilues que les hommes. Mais quelle est cette évidence ? Et à quoi sert-elle ?
Beau patriarcat, non ?
Bon d'accord, nos réponses se ressemblent beaucoup d'une émission à une autre. N'empêche que le poil se retrouve à une place phare dans cette obsession à traquer les différences entre les hommes et les femmes. Et on se rend vite compte que le poil est aussi lié à des idéologies sexistes, mais aussi racistes. Et on verra comment. Alors on va voir aussi, on va parler de la pression sociale sur les femmes pour éradiquer tout leur poil. Mais le but, c'est pas de juger le fait de s'enlever les poils. Hein. Mais c'est vrai qu'on a voulu aussi quand même mettre en avant des femmes qui décident de garder leurs poils, comme des paroles qu'on entend trop rarement. Alors dans le petit jingle fait pour l'occasion que vous avez entendu tout à l'heure, on entend une musique un peu dance comme ça, d'une grande qualité musicale, qu'on fait exploser à un moment. Bon, bah, sans vouloir citer la marque, c'est donc une musique qui a été créée par une marque de rasoir. Donc c'est une publicité sur internet qui sert à... Et on n'a pas passé, on avait trouvé aussi une autre musique aussi, tout aussi dense pour une marque de crème dépilatoire. Donc ça a l'air d'être un courant à la mode, un peu de faire des chansons dense pour vanter les mérites de produits qui servent à épiler les femmes.
Ouais, qui du coup, pour le coup, je pense, c'est aussi le genre de pub qui vise plutôt les jeunes filles, voire très jeunes filles et ados au niveau du style. Et que aussi, dans l'idée, dès ton plus jeune âge, il va falloir éradiquer tous ces poils qui commencent à sortir en plus grand nombre.
Et ouais, on a aussi utilisé une petite création qu'on a trouvée sur Internet qui s'appelle Vide Meuf. Donc on peut vous encourager à aller voir sur Internet, on les trouve facilement. Il y a toute une série de petites vidéos et donc celle-là nous semblait tout à fait à propos... pour l'émission de ce soir. Et aussi, plus sérieusement, donc, tout au long de cette émission, on va utiliser comme fil conducteur un peu un texte qui nous a beaucoup inspiré des réflexions. C'est un texte de Priscille Touraille qui s'appelle « Des poils et des hommes, entre réalité biologique et imaginaire de genre eurocentré ». Priscille Touraille, c'est une chercheuse en anthropologie sociale, c'est une féministe aussi. Et dans ce texte, elle questionne les réalités biologiques du poil et les imaginaires liés au poil en Occident, ainsi que du coup les imbrications des idéologies racistes et sexistes dans tout ça. Alors voilà, bah pour commencer, on vous propose d'écouter un petit document sonore composé de témoignages sur le rapport au poil et à la pression sociale qui s'appelle « Poil à tout vent ».
Oui, je suis très poilue, plus que la moyenne des filles et même souvent plus que plein de garçons.
Et est-ce que tu veux nous raconter des anecdotes de gens qui t'ont fait des remarques ou qui ont réagi par rapport à tes poils ?
Bah, j'en ai plein, tout le temps, dans la rue ou quoi. Après, je pense que je trouve qu'il y a des trucs différents de comment les gens y réagissent selon si c'est des gens qui sont dans la rue. Ou si c'est des gens qui ont autorité sur toi, comme des médecins, par exemple, et que du coup, ça n'a pas du tout le même impact sur moi. Par exemple, l'été dernier, là, moi, j'ai décidé d'être poilue à la piscine. Alors bon, ça ne veut pas dire que j'y vais comme ça, sans rien faire. Ça veut dire que je tonds mes poils pour qu'ils soient moins longs, mais que ça se voit quand même vraiment très, très bien que je ne suis pas épilée. Mais voilà. Et ben, du coup, j'étais très populaire. C'est-à-dire que les enfants, enfin tous les ados et tout, ils se tapaient du coude et je voyais bien de loin qu'après ils venaient me voir pour dire « Ah ouais, t'as vu, c'est elle qui est poilue et tout ». Donc voilà, j'étais populaire à la piscine. Et du coup, ça, des trucs comme ça, en général, ben, c'est que je décide d'assumer et je le fais quand je me sens forte. Et même si ça me demande un effort constant, en fait, c'est un truc où j'ai des remarques, mais voilà. Et par contre, ce qui me fait vraiment plus... chier dans la vie, là, c'est que le rapport au corps médical et aux médecins.
Ouais, c'est plus... ouais, moi, je sais que je m'en prémunis à fond, par exemple, du regard des autres, des réactions des autres. Justement, moi, j'ai hyper du mal à assumer mes poils, je m'épile. Parce que les fois où je suis pas épilée, ben, je sais que, ouais, il y a des regards qui me pèsent dessus. Je sais que aller à la plage pas épilée, moi, si je suis pas avec 10 copines, et même avec 10 copines, et ben, c'est pas facile, quoi. Parce que juste, le regard des gens, c'est juste... juste, ils hallucinent, ils te regardent comme si t'étais un monstre, quoi. Voilà, c'est ça qui... que je trouve qui rend hyper dur à assumer le fait d'avoir des poils. C'est pas normal, c'est... En plus, moi, j'ai l'impression que, vu que souvent je suis prise pour un garçon, ou qu'en tout cas, je rentre pas forcément dans des cases genrées très claires, j'ai l'impression que ça rajoute aussi une couche de... elle est vraiment... Trop en dehors des normes. C'est pas juste qu'elle a les cheveux courts et qu'elle s'habille comme un gars, c'est qu'en plus elle a des grosses pattes poilues. Enfin, ça va vraiment trop loin, j'ai l'impression. Moi, je m'épile aussi parce que j'ai l'impression que ça fait juste un truc en plus dans mon expression de genre qui est déjà un peu. Qui fait déjà bugger les gens. Et j'ai l'impression que d'avoir des poils en plus, ça fait un truc de trop, quoi. C'est trop la latch, c'est trop. Ouais, et puis ça me rappelle des espèces de vieilles remarques de genre de ma famille ou de mes parents ou de. Ou de gens proches sur ces trucs de la personne au masse, là. Genre de la camionneuse à moustache, quoi. Et ben moi, j'ai vraiment hyper du mal à assumer ça. Et c'est aussi, j'imagine, une sorte de bouchophobie intégrée. Ou...
Bon, alors, faut que je raconte l'histoire de Monsieur Poil. Alors, Monsieur Poil, c'est un de mes anciens amants. Et il m'est arrivé un truc assez particulier, c'est la raison pour laquelle je lui donne ce nom-là. C'est qu'en fait, on était en plein moment de l'acte sexuel, il était en train de me déshabiller, et au moment où en fait, il m'a enlevé ma culotte, progressivement, il s'est mis à arrêter de bander. Et j'ai pas compris pourquoi, sur le moment, ça paraissait bizarre, donc finalement, bah, il n'y a pas eu de rapport. Et puis, j'ai pas trouvé de nouvelles de lui après ça, donc j'ai renvoyé un mail quelques temps après en lui demandant comment il allait et si on se revoyait. Et là, il m'a répondu que le fait que j'ai des poils au sexe, ça l'avait complètement déstabilisé, que ça lui avait fait perdre tous ses moyens, et que il serait très content de me revoir, mais que pour ça, il fallait que je m'épile. Et il précisait, entre parenthèses, qu'il fallait que minimum, ça soit format ticket de métro, parce que sinon, ça serait pas possible de continuer. Voilà, donc j'ai pas répondu, je l'ai envoyé se faire foutre, mais ça m'a quand même hyper traumatisée, cette affaire-là, parce que je me sentais trop poilu et dans un truc où d'un seul coup ça devenait juste, enfin, apparemment horrible. Et ouais, j'ai fait un peu tous les stades, quoi. J'ai fait le stade je suis vénère, j'ai fait le stade peut-être ça se trouve faudrait que je le fasse parce que je suis pas normale. Et puis après, le stade d'après, ça a été mais il faut que j'en parle à mes potes parce que c'est pas possible de garder ça pour moi. Et là où j'ai été super déçue, c'est que finalement, du point de vue des meufs, j'ai pas eu trop de réponses de solidarité. Les nanas étaient plutôt gênées ou un peu piteuses. Et par contre, ce qui était cool, c'est que j'ai eu plein de potes garçons qui, eux, m'ont vachement rassurée et qui m'ont dit que, bah non, eux, ils aimaient bien les poils et qu'ils trouvaient ça vachement cool. Et que, bah, il y avait vraiment un problème chez ce type-là parce que pour en arriver à perdre son érection, c'est qu'il y avait un problème, quoi. Et ce qui est quand même super rigolo, et ça, c'est la conclusion de l'histoire, c'est que dans les potes en question, il y en a un avec qui j'ai une relation quelques années plus tard. Et il s'est rappelé de cette discussion qu'on avait eue sur Monsieur Poil. Et on était au lit à ce moment-là, c'était marrant. Et il m'a dit, mais tu sais que moi, quand tu m'avais parlé de ça, j'avais hyper fantasmé sur le fait que peut-être t'avais plein de poils. Et moi, je trouvais ça hyper excitant. Et la première fois que j'ai couché avec toi, bah, j'étais presque même un tout petit peu déçue qu'il n'y en ait pas eu autant. Voilà, c'était l'histoire de Monsieur Poil.
La dernière fois qu'il avait un an et quelques, je pense que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un avec des. Ou qu'il voyait même des poils de dessous de bras. Et du coup, il était trop épaté. Et alors, ça a fait un effet chouette parce que c'était Noël et du coup, il y avait toute la famille autour. Et il y a mon petit neveu qui a commencé à tourner autour de moi pour regarder sous mes bras. Et toute ma famille qui était un peu gênée, et c'était assez drôle. Et du coup, je lui montrais bien mes poils, je levais bien les bras comme ça.
Je pense que j'ai sans doute eu des remarques, mais en vrai, je ne me souviens pas parce que ma mémoire, elle a tendance à bloquer les trucs désagréables. Je pense que quand je me mettais en jupe à l'époque, maintenant je me mets moins en jupe, il y a des gens que ça choquait un peu, mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de remarques.
Aujourd'hui, je me sens bien avec mes poils. Ça ne me gêne pas d'avoir des poils. Après, je ne sais pas. peut-être si c'est l'été et que par exemple je suis en jupe ou en pantacourt et que je suis dans des lieux publics vraiment et qu'il y a vraiment des gens, des fois peut-être ça me gêne un peu, mais je sais pas. Ah, de ma famille, oui, ma sœur souvent, pour les dîners de famille quand même, elle me dit tu peux quand même t'épiler et tout, et du coup je le fais, en vrai, c'est vrai.
Parce que c'est trop dur de résister à cette pression-là.
Ouais, et puis parce que je crois que ça me coûte pas grand-chose de m'épiler et que si ça lui fait plaisir ou je sais pas quoi, je le fais. Mais c'est chiant de le faire quand même. Enfin,
elle dit quoi ?
Je sais pas, il y a un truc de bien s'habiller quand on est en dîner de famille, d'être assez présentable. Et du coup, elle me dira quand même, tu pourrais t'épiler ou des trucs comme ça.
J'ai eu beaucoup de mal à assumer mes poils jusque très tard. Enfin, même je les ai assumés pas du tout. Et jusqu'au moment où je suis partie un an au Canada, à 22 ans, 23 ans, et où je me suis retrouvée habiter avec des féministes, et aussi dans une ville où il y avait beaucoup d'écolos, où genre, culturellement c'était quand même assez répandu pour les femmes de garder leurs poils. Et où vraiment, au début j'étais super choquée, moi je suis arrivée, j'ai fait « Ah ouais, c'est ça, c'est l'Amérique !» Et ouais, j'avais une réaction complètement stupide, un peu d'halluciner, de regarder les jambes des meufs. Et en fait, à force de vivre dans ce contexte-là, de juste me faire à ce que ça soit standard, en fait, à ce que ça soit normal, et du coup, moi aussi, assumer mes poils de jambes. Et aussi en lien avec le fait que j'étais en voyage, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas d'argent à dépenser dans des bandes dépilatoires tous les 15 jours. Et du coup, j'ai assumé, ça me semblait normal, au bout d'un an dans ce contexte-là, ça me semblait normal d'avoir des poils aux jambes. Et par contre, quand je suis rentrée en France, je me souviens que du coup j'avais oublié que chez moi c'était pas pareil, là où j'habitais, en France en général, mais enfin, dans un milieu plus normal, pas chez les, pas chez les féministes, pas chez les écolos, pas chez les... Enfin, c'était un autre contexte culturel, retour en France. Et là, un jour, j'ai mis un short, il faisait chaud, et j'avais pas du tout... j'avais oublié ce truc des poils. Et là, mon frère, qui quand même, à l'époque, avait une vingtaine d'années, je pense 20 ans, à peu près, a juste complètement halluciné sur mes jambes, et m'a regardé, et a vraiment eu un espèce de truc de... je sais pas, de regard, de terreur, en me disant « Mais t'as les jambes poilues !» Et oui, moi, ça m'a un peu fait rire, j'étais un peu comme « Bah ouais, oui, que ouais, c'est ça, je me disais, mais c'est fou, ce garçon, j'ai habité avec toute ma vie, et oui, il vient de comprendre qu'en fait j'avais les jambes poilues, quoi. Et que c'était courant, enfin, qu'en fait, ça, je lui ai dit, bah oui, comme la plupart des femmes, en fait, comme toi, comme. Mais pour lui, c'était une grande découverte.
Ouais, ma mère. A beaucoup de mal pour elle et mon père aussi, c'est un truc un peu sale d'être poilu, donc au départ ils n'hésitaient pas à me le dire, puis maintenant que je les ai remballés ils arrêtent, et dans la rue c'est plutôt des regards étonnés je trouve que dégoûtés, mais comme moi je les assume bien maintenant, voire je les porte fièrement, du coup ça m'atteint plus vraiment, je suis plutôt contente de montrer un corps poilu en fait. Alors la piscine, j'y vais pas, donc c'est assez facile, mais la plage, ouais, j'ai fait la plage avec les potes très fashion de mon frangin à Marseille, j'ai assumé totalement, là, en pleine ville, avec les vieux potes à mes parents qui ont 50, 60, 70 ans, pareil. Par contre, je vais pas à la piscine, et peut-être que cette question de poils, c'est lié, peut-être que je ferais que j'ai des amis pour aller à la piscine avec, parce que seule, peut-être, c'est un peu trop confiné pour me sentir bien.
Alors, vous êtes toujours sur Pile Poil sur Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Donc, on vient d'écouter différents témoignages de de Meuf, de Gwyn qui décident par moment de garder leur poil. Et puis on voit au niveau des réactions que c'est vraiment quelque chose qui choque aussi bien des fois l'entourage proche que dans la rue, etc. Comme si, en fait, au bout d'un moment, les gens en venaient à oublier que les femmes n'étaient pas naturellement dépourvues de poils. Ça, je pense, c'est peut-être plus les hommes qui les oublient, parce que les femmes, vu le temps qu'elles passent justement à devoir les enlever, c'est peut-être plus difficile de l'oublier. Mais du coup, voilà, ça n'a rien de juste naturel. Hein, c'est vraiment quand même une pratique culturelle et imposée. Et qui, quand même aussi prend du temps et aussi de l'argent. C'est quand même aussi toute une industrie, en fait, liée à l'industrie capitaliste, que ce soit au niveau rasoir, épilation, mais même tous les trucs d'électrolyse qui ne sont pas non plus indolores, loin de là. Ça représente une économie. Donc, il faut voir aussi qu'il y a ça derrière, quoi, ce mélange. Où il y a aussi un intérêt, en plus, on va dire, de normes patriarcales, un intérêt monétaire. Voilà, encore une fois, nous, notre propos, c'est pas d'être dans un truc de jugement sur la pratique, parce que j'ai l'impression qu'on peut décider différentes choses, de par exemple les assumer. Des fois, je pense qu'on peut aussi avoir hyper intégré qu'en fait, on n'aime pas, on trouve ça moche, au contraire, en fait, se les revaloriser et finalement les aimer. On peut aussi décider de, je sais pas, se réapproprier la pratique de l'épilation. Comme une pratique corporelle, de la même manière qu'on peut se réapproprier d'autres codes féminins.
Oui, puis c'est des stratégies aussi en fonction des moments de la vie. J'ai l'impression que selon les moments de l'année, selon les événements auxquels on va, c'est aussi les rapports à la famille. On entend aussi des meufs raconter « moi je garde mes poils, pour moi je m'en fous, mais c'est clair que plutôt que ma sœur me fasse chier à... » avec ces remarques, je m'épile, ça va plus vite et puis c'est moins fatigant, parce que on entend quand même aussi dans les témoignages que porter des poils quand on est une meuf, ça a vraiment des conséquences, quoi, concrètes dans les réflexions qu'on se prend, et donc c'est quand même une certaine énergie. Alors cette énergie là, on l'a pas toujours pour porter ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même d'être clair que il s'agit d'une pratique de modification corporelle, parce que à la base, là, on parle en Europe, les femmes ont de fait des poils.
Cette pratique, si elle n'était pas ancrée dans tout un système d'oppression justement patriarcale et tout ce qu'on va voir dans cette émission, en soi, chacun, chacune pourrait choisir de préférer s'épiler ou pas.
Oui, ou de se faire des rayures sur les jambes en épilation, pourquoi pas, des choses plus fantaisistes. Ou tu t'achetais léopard. Alors on va faire un mini intermède musical avec peu humoristique, d'une qualité musicale controversée selon les goûts, d'Isabelle Ferron.
Je voudrais vous parler de lui, vous parler d'un être meurtri, dont on se moque, dont on rit. C'est facile, il est si petit. Il vivait là, tout près de nous. On le trouvait un peu partout, de la mer du Nord au Pérou, de Bamako à Malibu. Pendant des siècles, tout allait bien. Tout le monde en prenait grand soin. On le trouvait mignon, tout plein. Et puis tout d'un coup, tout soudain, une conspiration infernale a décidé qu'il était sale. Vous savez bien de qui je parle. Mais oui, c'est de lui. C'est du poil. Le poil est un être vivant. Il ne demande rien. Il veut pousser tout simplement. Le poil est un être vivant. Il porte dans son cœur toutes les couleurs de ses parents. Le poil est un être vivant. D'où vient-il, où va-t-il le poil? On ne le sait jamais vraiment. Le poil est un être vivant. Regardez-le de près, vous verrez qu'il est innocent.
Alors c'était un pur moment de lyrisme poilu sur des gens riches.
Le poil est un être vivant, il est innocent. Du coup, on l'a pas écouté en entier, hein, c'était pas possible.
Non, voilà, c'était pour vous donner un aperçu de ce qui se fait sur la réappropriation du poil.
La créativité.
La créativité poilue.
Un peu sérieux.
Du coup, on voulait revenir sur cette... ou partir plutôt sur cet article de Priscille Touraille qu'on vous présentait au début de l'émission. Bah, par exemple, un des choses là, sur lesquelles elle part, c'est que y a quand même peu d'études en fait, qui sont faites et sur la répartition des poils dans les populations sur la planète, et aussi sur cette soi-disant différence entre hommes et femmes au niveau de la pilosité qui se représente partout. Et alors, elle trouve ça quand même un peu bizarre. Et par exemple, elle, ce qu'elle dit, c'est que la pilosité faciale et corporelle, à un moment, elle est tellement conçue comme un caractère masculin que la plupart des personnes, au moins en Occident, ignorent qu'une grande partie des hommes sur la planète n'ont pas de poils sur le corps. Bon, à l'exception des aisselles et du pubis, où là, c'est en général toutes les populations. Mais du coup, il y a une partie importante d'hommes qui n'ont pas de poils sur le corps et pas ou pratiquement pas de barbe. Et ce qui fait que les variabilités de la pilosité, elles sont soit minimisées, soit carrément niées. Par exemple, si on ouvre une encyclopédie, on pourra lire « Les hommes ont par rapport aux femmes une pilosité corporelle et faciale plus marquée. » Comme si c'était une vérité, universelle, là. Ce qui laisserait croire en fait qu'on est en train de décrire la réalité de la pilosité, pour pilosité pour l'espèce entière. Alors qu'en fait la glabreté, du coup l'absence de poils masculines, en fait elle est fort répandue. Donc ça, de la Chine au Japon, de l'Alaska en Amérique du Sud, donc dans les populations précédant la colonisation européenne, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas faits entièrement décimés au moment de la colonisation. Et aussi en Afrique, en gros, un peu sur toute la bande sahélienne et aussi en Afrique du Sud.
Ça, c'est des endroits du monde où les hommes sont plus glabres, c'est-à-dire n'ont pas beaucoup de poils sur le visage, voire vraiment aucun.
Au niveau du corps et du visage. Ce qui fait qu'en fait, les hommes sont alors plus glabres, ont moins de poils, que les femmes des populations où les hommes sont poilus, pour voir cette différence. Si on compare par exemple peut-être certaines femmes en Europe non épilées, et du coup des hommes de populations où il y a une quasi-absence de poils, il se trouve que du coup, les femmes seront plus poilues que les hommes. Et dans ces populations, il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes dans la distribution pileuse. Donc cette affirmation, les hommes ont par rapport aux femmes une pilosité corporelle et faciale plus marquée, elle est hyper européano-centrée là. Mmh. Elle ne décrit pas vraiment une réalité planétaire, on va dire. Et aussi, même dans les zones, on va dire, poilues, la proportion d'hommes peu poilus, elle est également élevée. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a en fait une part tout aussi importante de femmes qui ne sont vraiment pas glabres, qui sont poilues, que ce soit au niveau des membres, de l'abdomen, du torse et du visage. Mmh. Mais ça, c'est tellement tabou qu'en fait, en général, c'est complètement ignoré, quoi. Et par exemple, on va dire que sûrement le plus gros tabou en fait sur la pilosité des femmes, c'est la barbe en fait. C'est vraiment d'avoir des poils au niveau du visage qui serait un peu le plus dur à porter, parce que la barbe est vue vraiment comme un élément de différence entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça entre autres qu'on a voulu vous passer un extrait d'un documentaire sur Jennifer Miller. Alors Jennifer Miller, c'est une artiste lesbienne, directrice et performeuse dans un cirque, entre autres, qui s'appelle le Cirque Amok. Et dans ce documentaire, que du coup on a doublé parce que c'est en anglais à la base, elle parle du fait d'être une femme qui porte une barbe et comment elle en est arrivée à ce choix d'assumer de porter sa barbe et qu'est-ce que ça a créé dans sa vie de décider à un moment de ne plus l'épiler.
When Vers 17 ans, j'ai commencé à avoir un peu de barbe. Et on n'en a pas vraiment parlé dans la famille. Ma grand-mère n'aimait pas en parler avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai perdu le soutien de ma famille. Quand ma barbe a vraiment commencé à pousser, ma mère était morte. Donc on n'a pas pu vraiment en discuter. Seulement quelques fois. À une époque, je portais ma barbe et j'avais des amis super. Mais on n'en parlait presque jamais. On s'aimait beaucoup, mais c'était un peu un sujet tabou. J'étais encore très craintive et peu sûre de moi. Beaucoup moins maintenant, parce que je me sens très entourée par mes amis, ma communauté. Je me sens mieux dans la rue. J'ai peur d'aller dans les toilettes publiques. Je ne veux pas y aller sans une amie avec qui je parle avant d'y entrer pour qu'on entende ma voix. Je ne veux pas qu'on me dise « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» On est bien obligé de prendre son destin en main. Je n'ai pas arrêté de me heurter à l'impossibilité de me débarrasser de ma barbe ou de me raser. J'aurais pu continuer à me raser, mais ça ne marchait pas vraiment. Il restait toujours des traces. C'est gênant et déplaisant parce que les gens se disent « Elle a de la barbe, mais elle se rase. Cette femme veut cacher un défaut, mais elle n'y arrive pas. » Parfois, j'ai vraiment peur. Je ne suis pas facilement devenue une fière porteuse de barbe. Ça n'a pas été rapide. Je me souviens vaguement d'avoir flippé pendant un voyage. J'étais dans les toilettes publiques et je me suis dit « Ah, mais qu'est-ce que j'ai sur le menton ?» Je ne savais pas quoi faire, mais ça a poussé très lentement. Donc j'ai eu des années pour y réfléchir, car tout le monde peut avoir un ou deux poils sur le menton. C'est vraiment dans ce contexte de culture lesbienne d'alors que je suis devenue moi-même. C'est-à-dire que je jouais pour la culture lesbienne et je n'étais concernée que par le monde lesbien. Je me suis retirée intellectuellement du monde hétéro en décidant de ne pas aller à la fac, de ne pas faire de carrière et d'explorer plutôt cette communauté alternative. Là, c'était plus facile d'avoir une apparence alternative. Ma définition du genre ne vient pas simplement de qui je suis, de comment je suis, mais aussi de mon interaction avec la société. J'aimerais bien me définir comme une femme qui porte la barbe. Même si la catégorie « femme » à laquelle je pense ne doit pas être rigide, mais plus large, plus globale. Mais on me traite souvent comme un homme. Et depuis le temps, ça a influencé ma personnalité. Donc, au niveau culturel, si mes interactions avec la société créent mon genre, je sens que je suis autre chose que juste une femme. Les poils ont toujours été un signe de virilité. Les hommes ont de la barbe, mais si une femme en a une, elle traverse les frontières des genres. La barbe agit comme une démarcation claire. C'est empiété sur le territoire des hommes, donc sur leur pouvoir. J'étais chez ma grand-mère à Santa Monica. Et un jour, elle m'a dit « Je t'ai pris un rendez-vous pour que tu ailles faire une électrolyse. » Ça m'a mise très mal. J'étais allongée sur la table de l'électrolyse avec une femme qui m'examinait mon visage à la loupe. Je tenais un bâtonnet à la main pour m'isoler du courant, et la petite aiguille a pénétré avec une décharge électrique. Je l'ai vécu comme une mutilation, comme perdre une bataille, comme une défaite. C'était comme une trahison envers moi et notre cause. Le monde est plein de femmes qui ont de la barbe, ou qui en auraient la possibilité si elles le voulaient, et si elles l'acceptent comme je l'ai fait moi-même, au lieu de perdre leur temps, leur argent et leur énergie, avec la cire, le rasoir, l'électrolyse ou la pince à épiler. On connaît tous une femme qui s'épile tous les jours. Historiquement, les poils sont un symbole de pouvoir. C'est pourquoi les hommes ne veulent pas que les femmes en aient à trop d'endroits. Compris ? D'avoir de la barbe ? Oui, ça me donne beaucoup de force. Parce que j'ai dû vivre des choses très dures. Réfléchir à beaucoup de questions. La force que peuvent avoir les gens qui arrivent à traverser certains types d'oppression. Si on arrive à s'en sortir, c'est cette force-là. Il y a quelques années, j'ai senti que je devenais plus forte. Parce que j'ai eu le sentiment que je n'avais plus de secret. Ma lutte pour une sorte de perfection féminine était terminée. Je n'avais plus à me conformer à l'idéologie dominante.
Vous êtes toujours à l'écoute de Dégenrer, l'émission féministe pour vous épiler, pour vous déranger. Donc on parle de poils, et là c'était intéressant d'entendre Jennifer Miller nous parler de son rapport à sa barbe, et c'est assez intéressant de voir que, d'ailleurs, et c'est Priscille Touraille aussi qui fait cette remarque, que la barbe c'est un terme spécifique pour désigner le poil sur le visage, et que ça a du coup une valeur hyper particulière, ce truc de la barbe, notamment dans le marquage homme-femme.
Ouais, effectivement, la barbe est vue là comme un symbole de pouvoir en général. Et du coup, ce qu'elle remarque aussi, Priscille Touraille, c'est que les imaginaires en fait de la pilosité dans les sociétés européennes, elles sont assez contradictoires en fait. Parce que par exemple, il y a toutes les figures, par exemple, on va dire appelées des figures bénéfiques, là, genre
les anges,
les elfes, etc., qui sont toujours représentées comme glabres, là, en étant complètement absent de poils. Et par contre, les figures maléfiques, diaboliques, etc., vont être représentées hirsutes, super poilues, tout ça. Et du coup, il y a une première signification du poil, donc plutôt négative, qui est le poil proche de l'animal. Et ce qui fait que pour se différencier des autres espèces, les humains vont donner une signification négative à ce poil, et l'humain serait supérieur parce que lui, il est absent de poil.
Moins poilu que les autres animaux.
Mais alors, le problème, c'est que si on suivait ce raisonnement-là, dans ce cas-là, on devrait se dire que les humains qui n'ont pas du tout de poil, donc à commencer par les humaines, qui seraient censées être genre l'apothéose de l'absence de poil, c'est elles qui devraient représenter prioritairement
le top du top.
L'espèce, en fait. Sauf que si on ouvre n'importe quel bouquin de classe sur l'évolution de l'espèce, tout ça, qui va représenter, par exemple, Homo sapiens sapiens, c'est toujours la représentation d'un homme blanc, sans poil sur le corps, mais barbu.
Alors que si on suivait la distinction en fait, avec les animaux, en fait, peut-être ce qu'ils devraient représenter, c'est par exemple la population sane en Afrique du Sud, qui sont à peu près parfaitement glabres, et pas un homme européen poilu, quoi.
Et d'autant qu'on sait quand même que l'origine de l'espèce à laquelle nous appartenons, a priori, se retrouve plutôt dans les zones équatoriales de la planète plutôt qu'en Europe. Enfin, par rapport aussi à cette représentation là de l'homme sapiens sapiens.
Oui, qui est aussi en fait, par exemple, une idée en fait, on va dire plus ou moins récente en préhistoire, anthropologie, mais qui est hyper peu connue du grand public, parce que si on demande aux gens pourquoi les hommes, par exemple, conservent encore des poils, ils vont dire ah mais c'est à cause des hommes préhistoriques qui avaient des poils pour se couvrir du froid, ce qui a priori n'est pas tenable comme hypothèse, parce que justement l'origine serait plutôt dans les zones équatoriales où il faisait pas froid. Mais du coup, tout ce côté négatif du poil, à un moment, il est court-circuité par d'autres représentations qu'est le poil valorisé pour faire des différences à l'intérieur de l'espèce, donc soit entre hommes et femmes, soit entre différentes populations. Par exemple, au niveau des registres de signification de poil qui sont construits par les idéologies de genre, là, qui veulent mettre des différences importantes entre les hommes et les femmes. Et d'après Elsa Dorlin, qui est une philosophe féministe, elle explique que le poil, en général, est associé au tempérament sanguin, qui, idéalement, là, est masculin, et que le poil est marqueur de la puissance sexuelle masculine. Ce qui fait qu'au contraire, l'absence de poil chez les femmes, ça serait associé à une sorte de passivité sexuelle qu'on attend d'elle.
Ah oui.
Ce qui pour moi en fait renvoie aussi à toute cette espèce d'imposition là, qui est quand même en fait plus ou moins, j'ai l'impression, récente, de s'épiler entièrement le pubis chez les femmes. Et
si ce n'est entièrement beaucoup, quoi, qu'il reste vraiment plus beaucoup de poils, juste un petit peu de poils sur le pubis, mais vraiment aucun poil autour du sexe en fait.
Oui, puis avec vraiment, en fait, en plus, cette idée de commencer de plus en plus jeune. Hein, là, on n'a pas voulu vous passer toutes les pubs les plus horribles que nous avons trouvées sur le net, mais il y en a quand même une qui est un petit dessin animé, en fait, qui vante le fait de se raser le pubis.
Quand mon minou est tout doux, il fait miaou, miaou.
Ouais, et au niveau du style, on a l'impression que le public visé, je sais pas, c'est les petites filles, même 10 ans, 9 ans. Enfin, c'est vraiment un petit dessin animé avec une petite chanson, quoi. Le public visé est très, très jeune, quoi. Et du coup, le poil, là, il a aussi du coup toute cette espèce de signification là au niveau sexuel, et du coup pour chez les hommes, ça serait un signe de puissance. Et ce qu'elle les explique aussi, Touraille et aussi Elsa Dorlin, c'est que par exemple, autour de la colonisation des Amériques, le poil, il a été hyper significatif. Dans l'abrication d'idéologies à la fois racistes et sexistes. En gros, au moment de la colonisation, avant qu'il y ait une diffusion de représentations des natifs, quoi, des autochtones en Amérique, donc ces populations là, qui étaient considérées comme les sauvages américains, ils étaient toujours représentés comme plus poilus que les Européens, vus a priori comme inférieurs, donc plus proches de l'animal. Donc on les représentait très poilus. Sauf qu'à un moment, ça a quand même été prouvé par rapport à des personnes qui se sont rendues là-bas.
Ils ont vraiment découvert ces fameux sauvages.
Que, au contraire, en fait, ils étaient biologiquement quasi entièrement glabres, hein, sans poils. Du coup, c'était un peu gênant. Là, ça tenait plus le truc de proche des animaux poilus inférieurs, on peut les exterminer.
Il fallait trouver une autre bonne raison de les inférioriser.
Ouais, et du coup, il y a des auteurs qui ont voulu démontrer leur infériorité sur leur absence de poils, en gros sur le même modèle que pour les femmes. Par exemple, il y a un auteur de l'époque qui écrit « Les Indiens d'Amérique sont imberbes pour la même raison que les femmes le sont en Europe.
» Parce qu'elles sont inférieures.
Voilà, qu'elles sont inférieures aux hommes. Donc, en gros, ils ne sont pas poilus, donc c'est pas des vrais hommes, hein, donc on peut les asservir et les exterminer. Donc on voit en fait les changements de signification du poil selon les idéologies là, qui vont arranger. Sachant que ce poil masculin, il est un peu vu de manière ambivalente là. C'est que s'il est trop abondant, notamment sur le torse, ça va être envoyé une idée là de bestial, donc plutôt négatif. Mais par contre, la pilosité faciale, la barbe, elle est vraiment placée dans un autre registre. La barbe, elle est liée à plus des figures divines, à l'autorité, la toute-puissance, la sagesse. Par exemple, dans...
Oui, quand on représente les vieux sages et les dieux, en général, ils ont une barbe.
Oui, ou par exemple des représentations hyper connues, là, comme les représentations là, sur la chapelle Sixtine, ce genre de truc, ça va être des hommes barbus comme représentation du divin, du sage, etc. Et la barbe, c'est comme si elle était absolument nécessaire, comme un marqueur de la différence homme-femme. Et les idéologies religieuses monothéistes, hein, du coup, que ça soit... chrétiens, juifs ou musulmans vont exploiter là ce registre de la barbe dans l'imaginaire pour signifier justement cette histoire de sagesse, divin, autorité et marquer une différence importante entre les hommes et les femmes.
Oui, moi ça me fait penser aux imageries orthodoxes, par exemple les popes là qui ont donc une grande barbe.
Ouais. Et Elsa Dorlin, elle montre que les auteurs qui, justement, infériorisaient des prétendues, entre guillemets, races humaines sur la base de leur absence de poils, le faisaient notamment sur l'idée que l'absence, en fait, de caractère sexué distinct entre les hommes et les femmes, qu'on puisse pas clairement, à un niveau biologique, là, dire c'est un homme, c'est une femme. Donc, par exemple, qu'il n'y ait pas une absence de marqueurs différents, entre autres au niveau du poil, ça serait un signe d'infériorité. Et du coup, l'absence de poil était vue à l'époque comme une caractéristique des noirs, du coup, possibles à mettre en esclavage et pareil exterminer, et des entre guillemets sauvages américains, du coup, de la même manière vus comme inférieurs. En gros, l'équation c'était qu'ils participaient pas aux normes de virilité de l'espèce supérieure que seraient soi-disant les Européens. Donc là, on voit que cette absence de poils ça a été utilisé. Et ça l'est encore, on va voir aussi un peu après d'une autre manière actuellement, mais vraiment pour justifier des thèses super racistes, mais avec une imbrication en fait de thèses sexistes où en gros en fait la manière de raciser ces hommes, c'était de les considérer comme des femmes, quoi, si on résume. Alors avant de continuer un peu sur ces différentes questionnements que pose Priscille Touraille, on va écouter un morceau.
Alors tu vas en parler après du morceau, d'accord.
Mais en tout cas, il s'appelle Armpiter, donc poil aux aisselles, et c'est un morceau d'Alix Olsen.
There were no seats on the subway, so I had to grab a strap. As I lifted up my arm, I heard a scream.
What's that?
I took a look around. I thought there must be something scary, like a lion or a tiger or
the Virgin Mary.
But then I noticed they were looking at me. I heard,
oh my God.
There, Harry.
You turn 13, they put a razor in your hand to teach you the difference between a woman and a man. You see,
chicks smooth their pits so boys can smooth their chicks,
yeah. I was different, I wanted to smooth the chicks, I wanted to
lick their pits. Armpit hair, armpit hair.
I like it.
Armpit hair, armpit
spike
hair.
Spike it, spike it.
Armpit hair. Armpit hair.
Well, I was walking around Brooklyn when these cool guys cruised by. They said, we're looking for a good time, baby.
Wanna ride?
Well, I flashed my biggest smile. I say, hey, sounds like fun. Then I flash my armpit hair.
They turn, they run. Armpit hair, armpit hair.
It's a weapon.
Armpit hair, armpit hair.
Use discretion.
Armpit hair, armpit hair.
Well, I hear that the Senate is planning a convention to pass an amendment on
body hair prevention.
I'm planning on attending. I'll be sitting in the front row. I'll have chains on my pits screaming.
Hell no, it won't go!
I'm like Inspector Gadget when I unfurl my curls. I lasso all the bad guys.
Then I rope in all the girls.
Well, I figure I owe them because they saved me from the clueless and the hairless.
Patriarchy, yeah! Armpit hair, armpit hair.
You know it.
Armpit hair, armpit hair.
Grow it.
Armpit hair, armpit hair.
Well, I want to
go to Europe, the land of brave and free, where it's considered natural for girls to be hairy, where Gillette don't make a profit off of keeping women busy as pleasers with their shavers and their razors and their tweezers. So to all the boys and men with the furry, furry masses, with the ape-like backs
and the very hairy asses,
I don't find that particularly pretty, so get your opinion out of my hairy pity, huh?
Armpit hair,
forget
armpit hair,
Gillette
armpit hair,
don't pluck it
armpit,
Rapunzel's one from
armpit hair. Armpit hair.
They say cut your clits and shave your pits and cover your tits. We say bullshit, cause I use my curls to be at one with the world. Like when I'm out camping and I lay myself to rest, I sleep with my arms up
so the birdies can nest.
So stop and reconsider just what they consider natural, cause armpit hair is simply mammally factual.
Donc vous écoutez toujours Dégenré, une émission sur les poils. Et là, du coup, c'était une chanson qui s'appelle « Poils aux aisselles » en anglais, donc « Armpiter ».
Ouais, ou en gros, dedans, en fait, elle parle de elle, qu'est-ce que ça provoque, en fait, comme réaction. Et c'est assez en mode humoristique de décider de garder ses poils sous les aisselles, comment ça fait fuir les gars, comment on te met un rasoir dès ton plus jeune âge dans les mains pour justement que tu comprennes bien la différence entre un homme et une femme. Une femme n'a pas de poils aux aisselles. Et ce que je trouvais un peu drôle, c'est qu'en fait, dans la chanson, à un moment, elle dit qu'elle veut aller en Europe, qui considère comme naturel que les femmes soient poilues. Et effectivement, moi, c'est un truc que, par exemple, j'ai pu entendre au Canada aussi, l'idée de... par exemple, ça passait mieux que moi, j'ai des poils sous les bras parce qu'on me disait « Ah, t'es française !» Et je mais en France, ça passe très très mal. C'est vraiment une fausse idée que vous avez. En Europe, les femmes s'épilent aussi extrêmement.
Il y a vraiment ce préjugé que les Françaises notamment ne s'épileraient pas sous les bras. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en Europe aussi, il va y avoir des marquages de différence entre les différents pays avec ces préjugés-là. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas allée vérifier, mais il y a vachement cette idée qu'en Allemagne, en France, j'ai l'impression qu'on dit beaucoup qu'en Allemagne, les femmes sont plus poilues qu'en France. Enfin, en tout cas, qu'elles ne s'épilent pas. Et aussi, ça me fait aussi penser que moi, j'ai un peu fait des recherches sur toutes ces histoires avec le poil et tout. Et puis, à un moment donné, pour préparer l'émission, je me suis dit « Ah, ce serait sympa d'avoir des blagues. Il y a plein de blagues sur les poils. » Et alors, je suis allée voir sur Internet. Vous savez, il y a des sites entièrement dédiés à des réserves de blagues. Sauf qu'en fait, quand on cherche des blagues sur les poils, on ne trouve que, quasiment, exclusivement, que des blagues sur les Portugaises. Et donc, vraiment, un truc donc, hyper raciste. Hein. Donc, je n'en ai relevé aucune et je ne vous en raconterai aucune ce soir. Je trouve ça vraiment trop affreux. Mais vraiment, voilà, encore un truc de stigmate hyper fort et qui va servir à dévaloriser et à rendre très négatif. Donc, voilà, les Portugaises poilues, ça va être matière à rire et à se moquer et donc à injurier quelque part, quoi.
Oui, et puis moi, par exemple, je pense que n'importe qui pourrait se rappeler de blagues de ce style. Bon, encore maintenant, mais par exemple, au collège et à l'époque, moi, je me rappelle le truc hyper marqué où j'ai l'impression qu'en tant que fille poilue, c'est à peu près sûr que tu te seras pris des trucs là-dessus. Et bah, du coup, encore plus pour des copines ou même copains d'origine portugaise avec un espèce de truc de racisme hyper fort dans ces soi-disant blagues qui sont en fait juste des trucs de dévalorisation quoi. On va écouter maintenant quelques témoignages en fait sur le rapport au médecin. Parce que, comme on l'a vu, au bout d'un moment, en fait, les gens en arrivent à oublier que les femmes sont poilues, hein, tellement c'est habituel qu'en fait, elles les aient enlevées. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que, du coup, même des médecins, on peut se dire, ils sont censés avoir un peu fait des études en biologie, donc ils devraient être au courant, en fait, que les femmes, en fait, ont un système pileux. Ben non. En fait, couramment, en fait, des personnes qui vont chez des médecins sans être parfaitement bien épilés vont se prendre plein de remarques et les faire complètement bugger comme s'ils avaient oublié en fait le fait de oui, les femmes ont des poils.
Je pourrais raconter l'anecdote de mon dernier rendez-vous chez une nouvelle gynéco que je testais. Et tout le rendez-vous s'était très bien passé jusqu'à la fin, où elle m'a regardé un peu de pied en cap.
Et elle m'a demandé, mais est-ce qu'on a déjà mesuré votre testostérone? Parce que quand même, vous avez une certaine pilosité. Alors quand même, je pense que je m'étais épilé les jambes. Je pense que j'avais fait un peu vaguement le maillot, tout ça. Et du coup, ouais, est arrivée cette question de fallait mesurer mon taux de testostérone. Et je pense que j'ai juste eu un moment de bug et d'hallucination un peu à me dire mais c'est bon, je le sais. Et après, je lui ai demandé en fait quel impact ça avait sur la santé. Et si c'était dangereux ou quoi, enfin si c'était urgent de mesurer mon taux de testostérone. Et là, elle a été un peu décontenancée et elle a fait non, c'était juste pour savoir quoi, genre. Bah, du coup, elle aurait pu se passer de me poser cette question. Et moi, ce qui m'a super frappée, c'est que je me disais, mais elle doit quand même, c'est ça, en voir un peu toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les. Je pense pas être excessivement poilue non plus. Enfin, je pense que je suis quand même poilue dans la norme. Mais qui, je pense, selon les critères des femmes normales, doivent. Je pense que les femmes normales s'épilent plus que moi. Je pense qu'elles se décolorent tous les poils. Quand je pense à ma mère, par exemple, je pense que vraiment, elle est une personne standard, une femme standard, qui essaye de correspondre aux critères de beauté en vigueur, s'épile quand même vraiment beaucoup plus que moi. Et du coup, le fait que j'ai épilé mes. Par exemple, que j'avais pas décoloré les poils, enfin le duvet que j'ai sur le ventre, ou que j'avais des poils sur les seins que je pense que la plupart des femmes font enlever. Elle a considéré ça comme une anormalité, alors que je sais que c'est assez répandu.
Alors, j'ai des poils donc autour des tétons, des grands poils, un peu équivalent aux poils qu'on dit, enfin normal pour les gars, quoi. Et donc j'étais chez une médecin pour une consultation gynéco, donc elle fait le palpé là pour les seins, et là elle bloque sur un poil, et puis elle, je pense qu'elle a cru que c'était un cheveu ou j'en sais rien, elle le tire un peu comme ça, et puis bon, elle a vu que ça c'était attaché, quoi, c'était un poil, alors elle a bugué 5 minutes, et puis voilà, elle a continué, elle a rien dit, personne n'a rien dit, voilà. Mais c'était bizarre quand même. Enfin, c'était. Non, c'est mon poil. C'est pas un cheveu. Voilà.
Donc j'avais rendez-vous pour une séance d'acupuncture avec quelqu'un qui est notamment gynécologue aussi de profession. Donc avant de passer sur la table d'examen. Vu que je ne m'épilais plus déjà depuis quelques mois, j'ai préféré les prévenir pour éviter les regards surpris, en leur disant que voilà, j'avais arrêté de m'épiler et que je m'étais rasée, donc que c'était vraiment pas commun. Sauf que quand je me suis allongée, j'ai quand même eu une réflexion de la part de cette personne qui m'a demandé si j'étais sûre de ne pas avoir de problèmes hormonaux, étant donné que, je le cite, j'avais les cheveux très brillants, un brin de moustache et que quand même beaucoup de poils. Donc je lui ai fait remarquer que en fait, j'avais fait un masque pour les cheveux, d'où la brillance et le volume, n'est-ce pas? Et que en fait, je n'étais poilue que jusqu'aux genoux, donc la zone que je m'étais épilée... gamine jusqu'à maintenant, et que mes cuisses avaient un système pileux, ma foi, très raisonnable. Voilà. Il m'a juste dit « Mais vous êtes sûre ?» Et j'ai clôturé le débat, là.
Bah, moi, comme autre anecdote, je pourrais raconter l'histoire de mon médecin, notre médecin de famille, de quand j'étais jeune ado. Qui, bah du coup, je sais pas, c'était la puberté, je commençais à avoir des poils, une petite moustache, mais pas grand chose. Enfin, vraiment, je pense pas être spécialement poilue. J'ai l'impression que c'est ce qui frappe les gens, en tout cas en regardant mon visage. Ils se disent pas, ah, elle a une bonne moustache. Et je me souviens que ce médecin de famille, il voulait me prescrire la pilule. Parce que, voilà, j'étais trop poilue. J'étais trop poilue selon lui. Et quand même, prescrire la pilule, c'est quand même un traitement hormonal qui a des conséquences lourdes pour quelqu'un qui a pas de sexualité, juste puisqu'elle a peut-être un petit duvet au-dessus de la lèvre. Je trouvais ça assez fou. Et oui, c'était un truc à soigner, quoi. C'était un truc... Et j'ai des amis... Moi, j'ai refusé de le prendre. Mais je connais des personnes qui ont accepté de prendre la pilule pour lutter contre leurs poils, quoi. À mon âge, enfin, à l'âge que j'avais à l'époque, à 12 ans. Et du coup, ouais, ça m'avait frappé, ce truc de... C'est une maladie.
Du coup, en fait, moi,
depuis que je suis petite, bon ben il y a ce truc où je suis poilue, mais ça a commencé vraiment à avoir un impact sur mon rapport au médecin. Quand la première fois que je suis allée voir un gynéco, je devais avoir 18 ans, puis j'y allais pour prendre la pilule. Et en fait, j'étais pas épilée, machin. Et lui, tout de suite, du coup, il le faisait comme des blagues. Et moi, sur le coup, je l'ai pris un peu comme des blagues. Où il me disait, ah, mais quand même, vous pourriez vous faire offrir une épilation définitive pour Noël. Et voilà, et du coup, moi, je trouvais ça un peu drôle sur le coup. Mais en fait, après, en y réfléchissant, plus du tout. Surtout dans l'idée qu'il a pas voulu me donner la pilule. Il a refusé de me donner la pilule et il voulait absolument que je fasse avant des tests hormonaux pour qu'on fasse, en fonction de ce que donnaient des résultats des tests, de me donner une pilule pour m'enlever ma pilosité. Alors que je lui ai bien dit que moi, dans ma famille, on était poilus et que moi, ça ne me dérangeait pas. Malgré ça, en fait, je n'avais pas accès à la contraception que je voulais parce que j'étais poilue, en fait. Donc là, moi, je trouve que c'est hyper grave parce que ça a un impact direct sur ma vie et sur quel accès, pour le coup, à la contraception, j'ai. Et là, maintenant, je trouve qu'il y a aussi tout le rapport de... je sais que nécessairement, je vais avoir une remarque des médecins que je vois qui vont trouver que j'ai un problème de pilosité. Ça va toujours être posé en problème. Alors, en problème, ça peut être posé gentiment. La dernière fois, la médecine du travail, c'était plus dans un truc de « Est-ce que vous êtes au courant qu'on peut faire des traitements ou quelque chose si c'est un problème pour vous ?» Mais elle ne me laisse pas le choix de savoir si c'est un problème pour moi ou pas. C'est qu'elle me dit « Ah oui, évidemment, on voit bien que vous avez un problème de pilosité. » Donc voilà, il y a ce côté, et les médecins pensent que c'est un problème pour moi. Et il y a l'autre côté où c'est un problème parce que je suis anormalement poilue. Du coup, ça veut dire que j'ai un problème quelque part, potentiellement un problème de santé. Donc ça fait que là, ma gynéco, elle a décidé l'année dernière qu'il fallait que je refasse des tests hormonaux. Et avec toujours ce truc-là où moi, j'ai pas envie de les faire spécialement, mais en même temps, c'est une personne qui a de l'autorité sur moi et que, en fait, ça m'inquiète et ça me fait culpabiliser si je les fais pas, parce que je me dis que si j'ai effectivement un problème, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et du coup, je les ai faits et j'ai la testostérone un peu plus élevée que la moyenne. Si on prend les standards français, parce que si on prend les standards américains, je suis dans la moyenne. Mais du coup, à partir de là, il faut que je fasse... j'ai été faire une batterie d'examens, des échographies, plein de trucs. Et qu'en gros, elle me dit, il faut trouver d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est que vous avez un problème. Donc voilà, et du coup, moi, je trouve que ça, c'est hyper relou, parce qu'en fait, je m'épilerais, les médecins ne me diraient pas de faire des, des tests hormonaux, parce qu'ils ils verraient pas, en fait, ce truc. Et ça, c'est ce qui est le plus chiant, parce que ça crée un truc d'anxiété au quotidien, et que du coup, dès que je vais voir un médecin, il faut que je puisse répondre et me justifier de ces trucs de prise de sang et d'hormones et d'analyse et de où j'en suis dans mes traitements. Voilà.
Oh,
Vous êtes à l'écoute de Dégenrer, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97FM. Ce soir, c'est une émission où nous parlons poils et nous parlons surtout un peu de toutes ces histoires autour du genre, hein, comme on aime bien le faire à Dégenrer. Quelle est donc l'importance du poil dans les marquages genrés entre les hommes et les femmes et aussi entre les différents humains qui peuplent la planète donc. On voit un peu les idéologies sexistes et racistes qu'il y a au milieu de tout ça. Et là, on écoutait donc des témoignages de personnes qui racontaient leur rapport au médecin. Et je trouve ça assez fou, cette pathologisation des femmes poilues, avec ce complètement fou de s'imaginer qu'en fait, ça se trouve, la patiente précédente est tout aussi poilue naturellement que celle qui se reçoit ces réflexions-là. Simplement, elle s'est épilée avant de venir. Donc en fait, ça n'a pas de sens. C'est vraiment une absurdité médicale de ne pas avoir ce recul-là. Je trouve ça assez choquant. D'autant plus que ça amène à des injustices et à des choses que je trouve quand même assez graves, comme le fait de refuser la pilule, enfin un moyen contraceptif à quelqu'un. En plus, on en trouve d'autres témoignages qui disent qu'au contraire, on leur a imposé cette même pilule hormonale. Donc Je trouve ça quand même assez choquant et ça m'énerve quand même beaucoup sur le rapport au médecin. Et j'ai envie encore une fois de plus de dire au médecin, mais allez un peu vous former et réfléchissez un peu sur votre pratique quand même et sur en fait les préjugés que vous avez. Parce que j'ai l'impression que les médecins ont fait des très longues études, ont appris beaucoup de choses et sont très savants sur tout un tas de choses et donc sont utiles pour ça. Mais néanmoins, ils sont pas comme le reste de la population, ils sont imprégnés de préjugés. Et sauf que là, en l'occurrence, ils ont un pouvoir qui fait que je trouve ça quand même assez craignos, quoi.
Oui, et puis c'est toujours cette idée-là que, soi-disant, là, ce qu'on appelle les sciences dures, elles seraient censées être plus objectives, tout ça. Et je trouve que c'est aussi un des trucs qui, pour moi, là, j'aime bien aussi démonter à Dégenrer, c'est de se dire qu'en fait, on peut aussi réinvestir en tant que féministe, je sais pas, le champ de la biologie, de la science, des sciences dures, de la préhistoire, etc., en général, parce qu'en fait, c'est marqué vraiment hyper fort par des idéologies de domination, en fait.
Oui, c'est pas neutre.
Que ce soit sexiste ou raciste, c'est pas neutre, quoi.
C'est pourtant pas facile, hein, des fois, quand on n'a pas fait des études ou qu'on n'était pas très forte en sciences quand on était à l'école. Mais c'est vrai qu'il y a des enjeux politiques importants dans le fait de comprendre, et notamment quand on parle de biologie, justement, et quand on parlait justement de contraception hormonale. Moi, ça me fait penser, du coup, à ces histoires d'hormones et aux liens qu'on met entre les hormones et la pilosité.
Parce qu'en fait, encore une fois, là, si on reprend le texte de Touraille, le fait de faire comme si le poil, c'était un caractère universel là, chez les mâles humains, ça maintient en fait l'illusion d'une différence biologique entre les sexes qui serait partout identique. Ce qui fait que d'un côté, on le voit, les femmes poilues, elles sont renvoyées à du pathologique, mais aussi les hommes glabres, sans poil, ils sont en une sorte renvoyés de no man's land de l'espèce, d'inexistence, on les nie en fait.
C'est pas vraiment des hommes, ils n'existent pas, comme si... Et c'est intéressant parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, non seulement entre les différentes populations, on va trouver des endroits dans le monde où les hommes sont imberbes, ou en tout cas n'ont pas de barbe, par exemple, et ont très peu de poils sur le corps, mais même à l'intérieur d'une même groupe de population, et donc même en Europe, y a tout un tas d'hommes qui n'ont pas de barbe. Donc ces hommes-là vont être anormaux, un peu...
Puis elle, en fait, où elle s'interroge, c'est de se dire, ok, du coup, d'où vient, par exemple, la présence ou l'absence de poils? Et encore une fois, elle dit qu'en fait, elle trouve ça étrange parce qu'il y a quand même peu d'études et de théories qui sont avancées là-dessus. Et qu'en général, l'idée la plus répandue, c'est que la présence de poils, elle serait seulement liée au taux d'androgène. Mais ce qui, à un moment, en fait, conduit à penser que les hommes glabres, ça serait des femmes hormonales, suit ce raisonnement.
Ça vaut le coup de le reformuler. Donc, si on dit que la présence de poils ou non sur le visage serait liée à la présence d'hormones masculines, ça veut
seulement.
Dire... Seulement. Ça veut dire que des hommes qui sont imberbes au niveau du visage n'auraient pas d'hormones masculines ou auraient moins d'hormones masculines. Donc, ne seraient hormonalement pas des hommes. Donc des femmes.
Oui, alors que par contre, si...
C'est bizarre quand même, comme façon de...
Oui, ce qui est faux, en fait, si on regarde, en fait, du coup, des études, par exemple, qui ont été faites sur le rapport entre le poil et le taux de testostérone chez des hommes de différentes populations, ben, le rapport, en fait, il n'est pas du tout évident. Du coup, le modèle... c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien hyper fort, bah, soit même à l'intérieur d'une même population.
Il y aura une variabilité.
Oui, il y a une variabilité
hyper importante
qui fait que en fait, l'équation ne marcherait pas de « tu es très poilu, donc tu as un taux de testostérone plus élevé ». Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas une corrélation aussi évidente, c'est beaucoup plus complexe. Ce qui fait que le modèle bah, qui dit que les hommes ils ont des poils, parce qu'ils produisent plus d'androgènes que les femmes, c'est trompeur, parce qu'ils ne rendent pas compte de cette complexité et des différences entre populations. Mais par contre, le problème, c'est que, notamment justement en Occident, c'est une idée qui est tellement présente, là, ce rapport entre le poil et le masculin, qu'il y a quand même, par exemple, des bouquins qui sont soi-disant là, hyper. Des trucs de vulgarisation scientifique. Le genre
oui,
de bouquin
dont on a
hyper
beaucoup parlé
à la
dans
mode.
Dégenré, parce qu'on est très en colère contre toutes ces foutaises-là.
Ouais, du type les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, ou par exemple, un autre bouquin qui s'appelait, avec un titre aussi intelligent que « Pourquoi les hommes ne trouvent pas le beurre dans le frigo et les femmes ne savent pas faire des créneaux ?» Du coup, dans ce genre de livre qui se présente soi-disant comme un truc de vulgarisation scientifique, on a quand même trouvé écrit des raisonnements, hein, noir sur blanc, qui disent « Les hommes asiatiques sont moins poilus. » Du coup...
Que ils... les hommes européens.
Ouais, que les hommes européens. Donc, ils ont moins de testostérone. Donc, ils sont moins virils, donc ils réussissent moins bien leur créneau, mais par contre, ils violeraient moins. Et ça, c'est quand même des trucs écrits noir sur blanc et qui se disent être un raisonnement scientifique.
Alors, on va un peu décortiquer cette affirmation, parce qu'elle est effectivement très intéressante à plein de niveaux. Non seulement, donc, il y a ce lien qui déjà est questionnable entre pilosité et virilité. Je veux dire, qu'est-ce que la virilité et par quoi s'exprime-t-elle ? Et en quoi est-elle intéressante ? Enfin, tout un tas de questions sur la virilité, qui dépassent le cadre de notre émission même. Et ensuite, le lien entre donc, virilité et, savoir-faire et un savoir-faire spécifique, comme celui de faire des créneaux, qui la repose donc totalement sur un préjugé sexiste, qui est que les femmes sauraient moins bien conduire leur voiture que les hommes. Et que ça viendrait d'un patrimoine génétique et non pas d'une éducation différente. Ce qui est peut-être ce que nous défendrions plutôt à dégenrer, de dire bah, effectivement, si on apprend moins bien aux femmes à appréhender l'espace et les différences de s'appréhender différemment dans l'espace, quoi, comme on voit que c'est par exemple en jouant au foot, on apprend ça. Parce qu'on apprend à s'appréhender au milieu d'un terrain, le ballon, les buts, tout ça, là, ça développe une capacité. Donc tout ça, ça s'apprend. Donc ça, c'est l'autre truc. Et enfin, en plus, le lien entre cette même virilité et ce truc de violer des femmes. Alors, je ne sais pas d'où ils tirent ces chiffres-là, qu'il y aurait moins de viols en Asie qu'en Europe.
C'est pas des chiffres, en fait. C'est juste des hypothèses en fait purement racistes, parce qu'en fait dans la même phrase il enchaîne ensuite par dire que par contre les noirs seraient potentiellement plus des violeurs parce qu'ils seraient plus virils, enfin en fait ça tient sur rien,
peut-être c'est moins juste... poilus d'ailleurs aussi, non?
Oui, c'est juste en fait à un moment affirmer des hypothèses mais ultra racistes et sexistes en se réfugiant derrière soi-disant en fait une neutralité scientifique qui repose sur rien et qui est quand même assez facilement démontable. Mais le problème c'est que ces bouquins ils sont ultra vendus parce qu'en fait ça marche aussi.
Oui,
quoi.
Ça marche parce que justement, c'est des raisonnements simplistes qui répondent à des interrogations auxquelles c'est compliqué de... La vérité est complexe, en fait. Donc, ça nous arrange de voir des choses simplistes. Je pense que c'est ça qui marche. Mais aussi, ce qui m'emmerde quand même, je voulais finir là-dessus quand même, sur ce lien entre virilité et viol et donc... c'est comme... Si, moi, j'en ai aucune idée des chiffres... Enfin, de... Est-ce que... Même si, ce que je veux dire, c'est que même s'il y avait effectivement moins de viols dans cette partie-là du monde qu'en Europe, même si c'était le cas, lier ça à un truc génétique plutôt qu'à un truc peut-être social, à des différences de société, ça, c'est ça qui est emmerdant. Mais oui, en fait, sachant que c'est probablement faux, mais même si c'est
vrai.
Bah
de fait,
vrai,
en plus, ils avancent vraiment. Ils ne se basent pas du tout sur des recherches sociales, en fait, sur ça.
Mais, et oui, mais non, lié la question du viol à un truc biologique et à une soi-disant virilité, un truc qui ne peut pas s'empêcher, du coup, si c'est biologique, ça veut dire qu'on ne peut rien y faire. Ça veut dire que c'est naturel. Et ça, ça me fait vraiment chier aussi sur cette question-là.
Oui, de toute façon, bah, toutes ces théories-là, c'est des sortes de théories du statu quo, de l'immobilisme, en fait. Alors, soi-disant, on va dire que les choses sont naturelles, biologiques, donc ne changeons plus rien. Et bah, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a un enjeu aussi, là, pour les féministes, d'investir, justement, bah, par exemple, la biologie ou certaines sciences pour démonter ce genre de raisonnement qui est quand même hyper grave, quoi. Bon, peut-être on va faire
une petite pause musicale.
Ouais.
Alors, on va écouter un morceau de un groupe qui s'appelle Mazok.
Les bras, j'aime. Ils sont longs et noirs. Ils me donnent la force de me dire je suis moi. Elle aussi. Mais je les touche, les bouge et joue avec eux. Mais je les touche, les bouge. Poilu, musclé, ou la jolie dame qui semble asexuée, mais je les touche et bouge et joue avec eux. Mais je les touche et bouge et joue avec eux. Les poils sur moi, quelle chance et quel bonheur de sentir sous mon corps. Amis qui partagent mes nuits, mais je les touche et bouge et joue avec eux. Mais je les touche et bouge et joue avec eux. Les poils sur moi, quelle chose.
Toujours à l'écoute de Dégenré, une émission féministe qui aujourd'hui parle de poils sur le 97 FM. Bon, alors on arrive un peu à la fin de notre émission et du coup, par rapport à ces histoires justement de répartition de la pilosité entre les humains sur la planète et entre les hommes et les femmes dans certains coins de la planète. Justement, on a l'impression que ça pourrait être intéressant, en fait, à un moment de se pencher plus là-dessus. Mais encore une fois, c'est un sujet là où il n'y a pas d'études. Alors, on pourrait s'imaginer comme ça, c'est un sujet un peu futile. Mais alors, bon, quand on se penche dessus, on voit que c'est vraiment pas si futile que ça, quand en fait on voit toutes les idéologies en fait qui peuvent brasser autour, et que peut-être il y a un peu des réticences justement à plus se pencher sur le sujet parce que ça remettrait en cause justement certaines idéologies, ben encore une fois racistes et sexistes, parce qu'en gros ben reconnaître à un moment et s'interroger ensuite sur l'absence de différence de pilosité entre les mâles et les femelles
pour une partie de l'espèce humaine. À un moment, ça remettrait trop en cause quelque chose qui est un peu un des plus gros bastions de la construction du masculin et du féminin autour du biologique. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'importance justement qui est accordée à cette histoire de poils dans les différents hommes-femmes, en tout cas dans... au moins en Occident, quoi. Et puis, voilà, ce qu'on a vu au cours de l'émission, c'est que, par exemple, les théories du XVIIIe siècle, elles considéraient que les hommes sans barbe et sans poils, en gros, n'étaient pas des hommes. Hein, ils étaient comme des femmes, dépourvus de puissance sexuelle, en gros, incapables de régénérer leur race, entre guillemets. Ce qui, du coup, à l'époque, était un bon argument pour considérer leur décimation souhaitable, voire inéluctable. Alors, au XXIe siècle, on n'avance pas les discours.
On est un peu plus mal à l'aise avec ces histoires-là.
Mais du coup, en fait, on a un peu comme réglé le problème autrement. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on fait comme si la pilosité masculine, elle était universelle. Ce qui ferait que cette sorte d'hégémonie là, dans les représentations, ça fait de l'homme poilu européen, en gros, le modèle de l'homme avec un grand H, l'humain, le modèle de l'humain tout court. Et du coup, ça, c'est aussi lié à la dictature en fait du genre, là, cette sorte de passion pour trouver des différences entre les hommes et les femmes, parce qu'en gros, la pire chose pour un homme, là, ça serait un peu d'être confondu avec une femme, quoi.
Oui, j'aime bien comment elle conclut son texte, Priscille Touraille, en disant la pire chose pour un homme, c'est pas d'être comparé à un animal, c'est d'être confondu avec une femme. Donc vraiment encore dans ce truc de hiérarchisation là. Et j'aime bien aussi une des phrases, parce que on a hésité, puis on s'est dit qu'on n'avait pas le temps de creuser plus sur les questions de génétique, parce que c'est des questions hyper complexes, et moi personnellement j'ai un peu des difficultés à tout comprendre, parce que les enjeux sont quand même vachement compliqués, et puis c'est une science particulière, mais sur ces enjeux de comprendre d'où viennent les différences entre les hommes et les femmes, d'où vient le fait que on observe que les hommes seraient plus poilus que les femmes, on observe que les femmes sont plus petites que les hommes, tout ça. Et y a une phrase, alors je ne connais pas le chercheur ou la chercheuse qui l'a dite, mais c'est les différences pileuses entre les sexes que la nature a posées, alors ça même on pourrait les questionner, mais nos cultures et les cultures en général ont tendance à les creuser. Donc c'est vraiment cette idée de se dire que même s'il y a peut-être des enjeux génétiques ou évolutionnistes ou je ne sais pas quoi sur ces questions-là, mais la culture, le fait que... ça va vraiment avoir un impact hyper fort sur la question du biologique, quand même. C'est un peu ça, quand même, qu'on avait envie de dire, mais c'était difficile à expliquer.
Oui, puis ce qu'elle dit dans cette phrase qui est encore problématique, c'est qu'en plus, cette phrase, elle peut être vraie pour les cultures européennes, mais encore une fois, en généralisant, elle oublie aussi que pour... d'autres populations où il n'y a pas de différence marquée entre les hommes et les femmes, ça n'a aucune importance. Ou par exemple, elle a dit que dans des études, c'est très clair que, par exemple, en Europe, si on demande les préférences des hommes, ils vont préférer être avec des femmes glabres. Et les femmes vont préférer des hommes un minimum poilus, parce que signe de virilité. Mais que si on fait la même enquête, par exemple, de demander leurs préférences à des femmes en Chine, elles n'ont aucune préférence pour des hommes poilus, parce que il n'y a pas cette différence-là qui est associée.
Il n'y a pas cette signification-là.
La virilité avec le poil. Donc c'est vraiment un fait... hyper culturel, qui est aussi en fait un fait que les femmes payent, parce qu'à un moment aussi c'est pas faisable d'avoir à la fois en fait des hommes qui seraient relativement poilus, des femmes qui seraient entièrement glabres,
imberbes, qui donneraient des enfants filles imberbes et garçons poilus génétiquement.
Oui. Du coup, les pays, en fait, que ce soit en Occident, aussi en Proche-Orient, où les populations sont plus poilues en général, ça peut fonctionner que si les femmes passent quand même énormément de temps et d'argent à éradiquer leur poil, en fait. Hein. Cet idéal de virilité de l'homme poilu et de la femme imberbe peut marcher qu'un peu sur le dos des femmes qui vont passer ce temps, cette énergie à les enlever.
Et très prosaïquement, du coup, moi, la question que ça me pose, le fait de passer passer tout ce temps-là à s'épiler et tout. Et encore une fois, ça pourrait bien être un choix personnel, et si ça l'était vraiment, pourquoi pas. C'est que tout ce temps-là, et ben, c'est pas du temps qu'on passe à faire autre chose aussi. Et comment dire, moi, je sais pas comment dire, j'ai pas préparé ma phrase. Sur ce truc lié à la superficialité supposée de s'épiler, on pourrait décider, comme tu disais en début d'émission, que ce soit quelque chose, un choix esthétique, un vrai choix personnel de s'aimer mieux comme ça. Simplement, comme c'est tellement imbriqué là-dedans, c'est ça qui nous questionne. Et aussi que ce temps quand même qu'on passe et cet argent, et ben, ce temps-là, on le passe pas, mine de rien, à faire des choses peut-être productives. Bon, voilà, ça me questionne un peu ce temps que les femmes passent à... Mais en même temps, c'est compliqué parce que je veux pas tomber dans un truc misogyne de superficialité, mais...
Ouais, pour moi, en fait, le problème, c'est surtout quand même que ça soit ramené, justement, à un truc naturel, parce que ce qu'on passait avant, je veux dire, les gars qui passent leur temps à faire de la gonflette pour les muscles, quelque part, on pourrait aussi trouver ça tout autant superficiel, parce que le but, c'est avant tout de faire de la gonflette, qui est un truc purement esthétique aussi, mais en général, ça sera plus valorisé, parce qu'on est dans une société aussi qui dévalorise tout ce qui est féminin. Et du coup, je trouve ça compliqué, parce que c'est encore une fois toujours ce truc aussi, déjà de dévaloriser le féminin, et de renvoyer à la superficialité, alors qu'en fait, les hommes, d'autres manières, il y a aussi des préoccupations esthétiques là, mais qui en général sont pas vues de la même manière et dont on va jamais dire qu'elles sont superficielles. Quoi.
Oui, parce que soi-disant, ça va les aider à pouvoir porter des frigos dans les déménagements. Sauf que c'est de la gonflette et que c'est pas ça qui rend.
Oui, qui est la même chose que tu vas avoir une pratique, on va dire, au quotidien en fait, où on t'enlève pas un truc des mains dès que tu le prends, quoi. Mais qui est plus un truc en fait qui, des fois, pour plein de gens, se résume à quelque chose d'esthétique et en fait qui est lié à un truc de domination, de virilité, puisque c'est ça l'image qui nous est donnée. Et qu'aussi le but, c'est d'accentuer à tout prix, ces visions-là, en soi-disant un peu naturalisant des choses qui sont quand même des pratiques culturelles de modification corporelle, en gros. Quoi.
Et donc, encore une fois, d'essayer de vraiment souligner et surligner au plus possible les différences entre les deux genres. Pour finir, une petite blague avant de se quitter.
Et quelques infos.
On fait la blague ou les infos ?
Allez, la blague.
Alors, c'est dans un frigo et c'est des œufs, ils parlent ensemble. Alors, il y a l'œuf, il dit à son copain à côté... Eh, hey, mais t'as vu l'autre là-bas? Il a l'air trop chelou, tu trouves pas? Tu sais qui c'est, toi?
Bah non, je sais pas, mais t'as raison, il est vraiment bizarre, hein, il est pas comme nous. Attends, je vais demander au voisin s'il sait. Eh, tu sais qui c'est, là, l'autre, là, au fond, dans la rangée? Parce que il est chelou, non?
Bah non, je sais pas qui c'est, moi, mais t'as raison, il a une couleur bizarre, en plus. Attends, je demande à côté. Je vais lui demander. Pourquoi t'es bizarre? Pourquoi t'es pas un peu tout vert et tout poilu, toi? T'es bizarre comme œuf.
Bah attends, franchement, t'es trop stupide, je suis un kiwi, quoi, qu'est-ce que tu crois?
Voilà, on a fait rire notre technicienne.
Oui, voilà, on n'est pas sûr d'avoir réussi à faire rire plus que notre technicienne, mais c'est déjà beaucoup.
Allez, des infos rapides avant de se quitter. Les petits événements à Grenoble, pour nos auditrices grenobloises, les petits événements liés à nos luttes féministes.
Du coup, vendredi 27 avril, il y aura un concert de Lala Bolduc. Tu veux dire un mot sur Lala Bolduc ?
Lala Bolduc, un duo choc et chic qui fait de la chanson française avec plein d'instruments différents, un humour décapant. Et écoutez, moi, à chaque fois que je les vois et que je les entends, ça me fait un bien fou. C'est mieux qu'aller payer un psy, je ne sais pas, c'est vraiment... ça fait du bien au moral, quoi. Mais c'est vendredi, c'est pas samedi ?
Ah, t'as raison, le samedi 28.
C'est bon, vendredi, il y a peut-être quelque chose, parce que c'est Antigone, c'est ça ?
Ouais, c'est Antigone, du coup, rue des Violettes, à 20h. Et voilà, c'est Lala Bolduc, mais bon, vous pouvez aussi retrouver cette information, par exemple, sur Indie Média Grenoble.
Un autre concert. Allez, ce soir, on vous propose d'aller écouter de la musique qui fait du bien aux oreilles et au cerveau.
Un autre concert. Alors attends, je cherche la présentation. Tu pourrais expliquer où est la BAF, tiens.
Alors, ce concert aura lieu à la BAF, qui est un local d'un centre social autogéré, comme on dit, et donc qui est aux deux chemins des Alpins, vers le croisement entre la rue des Alliés et la rue Stalingrad.
Alors, ce concert, c'est le lundi 7 mai, mais c'est la veille d'un jour férié, ce qui peut permettre pour certaines de venir plus facilement. Donc, à 19h, il y aura un resto vegan et à 20h, il y aura un groupe qui s'appelle
Henry Pattern, enfin si je le prononce à peu près bien, qui est une chanteuse, guitariste, gwyn, qui fait du folk féministe. Il y aura Liamame La Muerte, qui est du noise psychédélique du Mans, et Lovers, qui est aussi des gwyn et féministes qui font de l'électropop et qui viennent de Portland, si je ne me trompe pas. Et puis toujours, tous les lundis, de 16h-20h, la bibliothèque féministe, donc toujours à la BAF de Chemin des Alpins, où vous pouvez aussi écouter les rediffusions de Dégenré, le lundi à 19h.
On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission de Dégenré. Bonne soirée.
Et on vous laisse avec un morceau des Van Van qui s'appelle Crust-moi et qui remet aussi en cause là un peu toutes ces histoires entre autres d'hygiène associées au poil et soi-disant aussi un peu au côté au féminin. Enfin bon, on vous laisse écouter.
Salut.